Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous d'être venu. On est très heureux d'accueillir Jacques Ferrier, éminent architecte national, international, universel, bientôt. Je me présente d'abord, je suis Franck Talon, je suis graphiste et designer. Alors pourquoi je suis là pour introduire Jacques et pour discuter avec lui? Parce que c'est un ami de longue date, un ami professionnel, un ami tout court aussi, avec qui on a fait beaucoup de livres. Le rapport à l'écrit chez Jacques est toujours très présent, il a fait 8 livres et on a travaillé ensemble sur 5 de ses livres. Idem pour des scénographies, sur la mise en espace, on a travaillé ensemble, et sur des signalétiques de bâtiments, et voilà. Et puis je le suis après par le biais d'autres publications sur lesquelles je travaille, d'autres éditions ou d'autres projets, où il y a souvent un projet de Jacques dedans, ou une évocation de son travail. Alors Jacques Ferrier est architecte, tu as été ingénieur, je crois que tu as une formation d'ingénieur à la base, ensuite tu es devenu architecte, je ne vais pas faire la liste, je vais faire une liste assez rapide de ces projets, peut-être que vous les connaissez, mais les plus connus sont le siège Piper Artistique à Reims, la cité de la voile Eric Tabarly à Lorient, le pavillon français de l'Expo Universelle à Shanghai pour la dernière expo, les ateliers du tram à Bordeaux, très beau bâtiment. L'Airbus Delivery Center à Toulouse, des bâtiments universitaires à Nantes, un immeuble de bureau qui a fait un peu sa réputation au départ pour la RATP à Paris, un pont à Choisy-le-Roi, et des programmes expérimentaux sur lesquels aussi j'ai eu la chance de pouvoir aborder ces sujets avec lui, tels que Concept Office, où il nous en parlera peut-être un peu, Concept House, et la Tour Hyper Green, qui est un projet en Chine qui a été adapté ensuite à une situation parisienne. Voilà. Alors, ce qui me semble intéressant dans le travail de Jacques, c'est justement ce rapport entre architecture, ingénierie et sensibilité, parce qu'il m'a toujours parlé de poésie, et en même temps avec un côté très, très ingénieur, c'est-à-dire que c'est un architecte qui a plutôt une écriture d'ingénieur, mais qui reste un architecte. Alors j'avais une première question assez bête à poser, mais qui est néanmoins importante pour moi en tous les cas, c'est pourquoi tu as eu besoin d'écrire un livre, et un livre en tous les cas qui n'est pas un livre de projet, qui est un livre, est-ce que c'est un manifeste, est-ce que c'est une histoire que tu as voulu raconter, est-ce que c'est un point à un moment donné dans ton parcours que tu avais besoin de faire?
C'est, en tout cas, c'est reconnaître l'importance du texte et de l'écriture dans mon travail. C'est-à-dire que j'ai fabriqué un peu la culture de l'agence, hein, puisque les projets que l'on fait, c'est toujours en équipe. Nous sommes entourés d'autres architectes qui démultiplient ce qu'on peut faire. Et en fait, la façon dont je réfléchis sur le projet et dont finalement je transmets les idées, les informations sur le projet passe beaucoup par la parole, par rapport par exemple au dessin, et passe beaucoup par le texte, illustré de petits schémas évidemment, hein, ce sont des réflexions chaque fois architecturales qui doivent mener sur une piste de projet, mais beaucoup par l'écriture et le texte. Ce qui fait que ce rapport du langage et du texte à ma production architecturale est extrêmement fort, de même que les influences. Souvent, quand on me demande les influences, je peux citer beaucoup plus fréquemment peut-être des auteurs littéraires ou des textes, plus que des peintres ou d'autres architectes ou des références prises dans l'art plastique qui sont souvent un réservoir de références assez immédiat pour les architectes pour des raisons évidentes de rapport visuel. Mais le texte qui laisse ouvert pas mal de pistes à l'imaginaire et qui retarde le moment où le dessin se forme, ça c'est quelque chose qui caractérise vraiment la façon de travailler. C'est-à-dire que quand on échange à l'agence ou avec les ingénieurs ou avec tous les participants autour du projet, le plus longtemps on reste sur des mots, sur des petits croquis et sur des textes, le plus longtemps on entretient une sorte de possible qui n'est pas encore tout à fait défini, voire d'incompréhension qui sont parfois fructueuses. Alors que si vous dessinez très précisément dès le début, ben, tout le monde fait ce que vous avez dessiné et il n'y a plus moyen d'entrer dans le process de fabrication du projet, alors que l'idée d'un texte, comme c'est un support qui n'est pas directement lié à l'architecture, est perméable. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours aimé écrire, et pour laquelle l'idée d'un livre, effectivement, comme tu le remarques, n'est pas une monographie, puisque les livres qu'on a fait avec Franck sont des livres d'architecture, donc des livres illustrés, des monographies. Oui. Mais l'idée de faire un essai de texte m'a toujours... c'était vraiment un petit rêve, comme ça. Et puis la rencontre avec un éditeur, Arléa, a permis à ce texte de voir le jour, et du coup, après, de m'exprimer, non pas uniquement sur les projets, je dirais, de l'agence, mais aussi sur des voyages, sur des visions de ville, sur pas mal de choses qui concernent l'architecture de près ou de loin.
Alors moi j'avais une première question qui a un peu déjà répondu, mais c'est le premier chapitre, c'est un architecte n'est pas un artiste.
Oui, ça j'ai toujours. Ouais, c'est ça la question.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le rapport avec l'art. Bon, il est très présent chez toi, dans ta vie, dans ton travail, mais tu commences par ça.
Parce que j'ai toujours, aussi en tant qu'architecte, mais aussi en tant que professeur, j'ai enseigné pendant 14 ans l'architecture, j'ai toujours été extrêmement méfiant, voire opposé maintenant, à cette sorte, à poser a priori que l'architecture, en tout cas l'architecte en tant que personne, se déplacerait dans la sphère artistique, avec tout ce que ça implique de liberté, je dirais, non surveillée, de mise en avant de son propre ego, et d'indépendance par rapport, je dirais, au monde. Bon, c'est un peu caricatural sur le travail des artistes plasticiens, mais il y a quand même, pour moi, une différence fondamentale entre un artiste, disons, un plasticien, puisque c'est souvent ce type d'art auquel on rapproche l'architecture, évidemment, plus que la musique ou la danse ou autre, et l'architecture. Moi, j'ai toujours revendiqué, et j'ai demandé à mes étudiants, et je demande aux gens qui travaillent avec moi, j'ai toujours revendiqué un engagement dans les questions de société. Franck évoquait mon rapport à la technique, il est effectivement très fort, mais il n'a jamais été un rapport entre architecture et technique, ou architecture et construction, mais toujours un rapport basé sur un triangle qui est architecture, technique et société. En ce sens que l'histoire de l'architecture, en tout cas l'histoire de l'architecture occidentale classique, bon, depuis 1500 ans, elle est à mon avis vraiment... elle est vraiment expliquée, elle est vraiment motivée par cette résolution. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, dans les périodes les plus fécondes et les plus inventives, je crois que les architectes ont su mobiliser et réquisitionner dans les techniques du moment, dans les techniques innovantes, dans les nouveaux matériaux, les nouvelles façons de construire, les formes qui répondaient et qui illustraient les attentes de la société de leur temps. Et quand un de ces paramètres n'est pas au rendez-vous, finalement, ça peut donner des périodes intéressantes, comme le maniérisme. Il y a toujours eu des périodes comme ça qui peuvent être intéressantes dans le sens qu'elles sont, elles peuvent être fascinantes dans la façon dont elles illustrent une sorte de décadence ou de repos dans l'innovation. Mais en tout cas, elles sont pas, à mon avis, solidement ancrées dans l'innovation. Si vous pensez à Brunelleschi, donc au Moyen-Âge avec le dôme de Florence, voilà, Florence veut exprimer son pouvoir. Il y a les nouvelles techniques de maçonnerie, de voûte et de dôme, et cet architecte invente ce dôme qui va pendant des siècles donner une image à la puissance des cités, et notamment la puissance de Florence. On pourrait dire de la même chose sur bien d'autres époques, au XIXe siècle, avec l'avènement de la fonte, puis le fer, puis l'acier, et l'illustration de la puissance grandissante du monde industriel, puis du capitalisme, des grandes gares, des grands magasins, de la tour Eiffel, des viaducs, etc. Pareil au XXe siècle. Il y a comme ça des moments où cette alchimie prend et fabrique une architecture. Et pour moi, ce sont les moments les plus intéressants. Et là, on n'est pas dans la figure d'un architecte artiste, pas du tout. on est, je crois, dans la figure d'un architecte extrêmement sensible, extrêmement curieux de la société et des techniques de son temps, et qui arrive forcément un peu par intuition, parce qu'évidemment, toutes ces lectures qu'on fait, c'est souvent a posteriori, donc c'est plus facile après de dire « Ah ben, on associe comme ça telle technique, tel architecte, telle invention. » Par exemple, une chose assez intéressante, c'est de noter qu'en 1880-90, c'est la conjonction de l'invention de l'ascenseur, de la structure métallique, de l'éclairage électrique, et même du téléphone, qui permet à une poignée d'architectes à Chicago d'inventer le gratte-ciel. Parce que si vous n'avez pas la structure métallique, vous ne pouvez pas monter au-delà de 15-16 étages, donc vous ne pouvez pas avoir ces gratte-ciels. Mais si vous montez et que vous n'avez pas d'ascenseur, bien évidemment l'immeuble est invivable. Si vous n'avez pas l'air conditionné qui a été inventé par Carrier à la même époque, ben ça ne marche pas non plus. Et finalement, même le téléphone permet à ces immeubles de se remplir et de pouvoir se parler d'un étage à l'autre sans chaque fois circuler. Donc là, il se passe quelque chose qu'on décrypte a priori, mais que les architectes de Chicago ont su mettre en forme. Donc ça, c'est une figure de l'architecte qui m'intéresse, cette capacité d'être profondément sensible, en résonance avec les attentes et les idéologies de la société actuelle, et en même temps être très curieux et très capable de recruter les bonnes technologies disponibles, faire le tri, parce que surtout aujourd'hui où il y a tellement d'envahissements techniques qu'il est hyper important de faire le tri, d'assembler. Et donc ce travail-là, je le rapproche plus à un travail d'auteur que d'artiste, au sens d'auteur, au sens par exemple qu'un réalisateur pour moi de cinéma est un auteur, parce que lui aussi dépend énormément de la technique, il dépend énormément d'un regard sur le monde contemporain, alors que l'artiste, au sens en tout cas, ce qu'emporte le mot en français, ça entraîne à mon avis des tas de chimères en ce qui concerne l'architecture et de fantasmes qui ne sont pas adaptés à ce qu'on attend aujourd'hui dans la fabrication de l'architecture.
Oui, pourtant, on voit bien avec, t'en parles, l'effet Guggenheim à Bilbao, avec un architecte auteur qui est aussi un grand technicien et qui s'appuie sur des technologies qui lui permettent maintenant de fabriquer des tels bâtiments. Tu parles de Star System. Est-ce que tu considères effectivement que l'influence de l'architecte maintenant passe par une starification d'un bâtiment ou d'un architecte, ou est-ce que des projets, est-ce qu'on peut encore maintenant avoir une influence sur la société autre que celle-là, compte tenu du développement du foncier, de l'économie, comment ça se passe, effectivement, que les logements, quand on doit produire des logements, c'est ric-rac en termes de budget et qu'il faut rentrer tant de logements avec telles normes à respecter, etc.
Pour moi, c'est la question la plus grave, enfin, la plus, au sens la plus sérieuse, qui se pose à notre métier aujourd'hui. C'est-à-dire que si je dis que les architectes ne sont pas des artistes, en ce moment, il se trouve que l'architecture est en train de fonctionner de plus en plus comme l'art contemporain, ou de plus en plus comme les grandes marques de luxe. Et d'ailleurs, grandes marques de luxe et art contemporain se confondent hein, de plus en plus.
Et puis beaucoup de marques de luxe ont aussi des stars architectes, Prada avec...
Oui, parce qu'elles Colas, entraînent, voilà.
Ben oui, ce qui pour moi... Elles démarreront avec Prada aussi au Japon.
Voilà, oui, certainement que Guéry, que tu citais pour Bilbao, doit bien travailler pour quelconque marque de luxe. Ce qui signe justement ce constat que je fais dans cet essai aussi, que je fais de façon assez négative, qui est de dire qu'il y a là vraiment un danger. Moi, je vois, j'étais à la FIAC, là, le salon d'art contemporain, la foire d'art contemporain à Paris. Peu après, je passe dans les rues de Paris, tu vois une vitrine Vuitton. C'est la différence devient assez faible dans les expressions, etc. Il y a vraiment un système qui marche. Très lié à la financiarisation du monde, à l'effet de branding, à l'effet de marque, etc. Et depuis, ce qu'on peut appeler, parce que c'est un jalon, l'effet Bilbao, puisque c'est rentré presque dans le langage commun, pour le meilleur et pour le pire, l'effet Bilbao ancre, et tu citais maintenant la collaboration avec Prada, etc., l'effet Bilbao ancre l'architecture dans ce process-là, Et c'est un process qui, pour moi, est quand même un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, comme tu le disais dans la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire que ce qui se généralise aujourd'hui dans les grandes métropoles et dans les extensions urbaines, c'est tout ce que tu évoquais, c'est des questions de découpage foncier qui sont découpés comme des tableaux de finances sur Excel, avec du zoning, c'est la mauvaise qualité des constructions, c'est la banalisation de l'architecture courante, c'est les méfaits, moi je pense que c'est la fin de cette période, mais ça c'est parce que je suis optimiste, c'est les méfaits d'une architecture fonctionnelle internationale et d'un urbanisme international qui partout produit des mondes urbains sans souci du climat, des topographies, des cultures urbaines et des usages, et qui donc créent des mondes qui sont très uniformes et très difficiles à s'approprier. Et donc ces bâtiments d'architectes stars associés avec des marques, la marque Guggenheim pour les musées, la marque Louvre maintenant pour des musées à Abu Dhabi, ou une tour la plus haute du monde à Dubaï ou à Shanghai, ces bâtiments-là existent dans une sphère de communication, existent dans une sphère de valorisation, évidemment, de valorisation de tout un système. Mais là où l'architecture n'est pas l'art contemporain, ou n'est pas le branding de luxe, c'est qu'au quotidien, les gens font face à leur ville, à leur lieu de travail, à leur habitat, à leur système de transport, et que si vraiment ça ne fonctionne pas, il va y avoir de graves problèmes dans les métropoles. Et ce n'est pas parce que le maire ou le pays aura posé un bâtiment star comme un sac Vuitton géant au milieu de la ville que ça va mettre, disons, un baume sur les plaies urbaines qui se développent à des vitesses phénoménales si on pense à ce qui se passe en Inde, en Amérique du Sud, bientôt en Afrique, en Chine, évidemment. C'est pour ça que je m'élève contre le star system, parce que j'ai l'impression... C'est pas pour dire que les bâtiments, il est hors de question, évidemment, de nier les qualités de bâtiments comme le musée que tu cites de Guéry à Bilbao ou tel autre bâtiment. Mais je pense qu'on est allé dans l'excès en ramenant l'image de l'architecture avec un grand A à ces quelques bâtiments qui sont vraiment une goutte d'eau, même si elle est extrêmement brillante, même si c'est une sorte de diamant comme ça dans le paysage, relayée par les musées, relayée par les magazines, par la critique, etc. Je trouve qu'on est passé dans l'excès dans la valorisation de ce star system par rapport à l'urgence qu'en tant que voyageur des villes, tu en es un autre, Franck, on voit dans nos voyages, dans la réalité. Et en même temps, il ne faut pas dire que cette réalité urbaine quotidienne, elle est toujours désespérante. Au contraire, on voit que dans les usages, il y a des choses formidables qui se passent dans ces villes, notamment asiatiques, que je connais un peu, des choses formidables, et qui pour moi sont aujourd'hui peut-être plus intéressantes que ces éclats singuliers de bâtiments, effectivement, qu'on voit ici ou là, quoi.
Ouais, ce que tu dis, bon, on voyage beaucoup, effectivement, avec Jacques. Effectivement, on se rend compte en Asie que pour citer celle-là, en Afrique, c'est pareil aussi, je connais moins bien, mais que la ville fonctionne très bien parce qu'ils ont su garder la mixité, en tous les cas, où ils ont su garder de multiples activités connexes, du logement, et que les espaces sont muables. Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au Guggenheim, c'est quand même une vraie réussite, moi qui viens du Pays Basque, je connaissais bien Bilbao avant, je le connais maintenant, ça marchait très bien. Alors certes, c'est un bon mauvais exemple parce que chaque maire maintenant veut son Guggenheim et quel qu'il soit tout petit, petite commune, etc., il va vouloir une salle de spectacle alors qu'il n'en aurait peut-être pas besoin et qu'il y a peut-être, ou alors il pourrait s'associer à d'autres communes pour la construire mais pas faire. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais. Mais juste pour aborder la question de... Tu parles d'éduquer les décideurs aussi. Alors, je crois que c'est super important. On dit toujours on fait de la pédagogie, quand on est dans un métier architecte, designer, etc. Il y a une grande part de pédagogie. Je pense qu'en tant qu'architecte, vous avez une grande responsabilité, effectivement, sur là-dedans et sur la société, donc par rebondissement, hein, parce que c'est vous pouvez, mais est-ce que vous pouvez maintenant le faire? Est-ce que c'est possible quand on n'est pas une star, comme voilà, quand on n'a pas été acheté, que le nom n'a pas été acheté parce qu'on a ce nom-là?
Ben, je pense qu'il y a quand même... En fait, c'est toujours... Il y a toujours les situations sont toujours contrastées, comme comme tu le dis, il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a quand même un bon côté dans cette starification. C'est comme au judo, quoi. Je crois qu'il faut utiliser l'énergie de l'adversaire pour emporter la partie. C'est-à-dire qu'il y a un bon côté. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé d'architecture. Donc, le bon côté, voilà. Comment éduquer ? C'est effectivement Arléa, qui est plutôt un éditeur de littérature, qui publie, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième essai qui est publié dans, disons, le domaine de l'architecture chez Arléa. Donc, ça prouve qu'il y a un intérêt. Moi, j'ai fait, je parle de ce que je connais, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait sur France Info pendant 2 ans, là, ça vient de s'arrêter il y a 2 mois, des petites chroniques, rythme France Info, donc c'est 4 minutes. Sur la ville, sur l'urbanisme, j'ai eu un retour, j'ai eu beaucoup plus de retours sur ces 4 minutes de France Info que sur tous les articles dans les magazines spécialisés d'architecture qui sont sur les projets de l'agence. Parce que c'est écouté et que finalement les gens, ça les intéresse. Et quand vous êtes obligé d'aborder un sujet urbain de façon très concise, vous n'avez pas le temps de jargonner, vous n'avez pas le temps d'être pédant en citant des références qui éloignent tout de suite tout auditeur. Donc vous entrez dans le vif du sujet et vous êtes écouté. Donc je crois qu'il y a quand même aujourd'hui pour la ville et l'architecture, de son, les gens savent qu'on est dans une société urbaine, on nous a bien dit que plus de la moitié de la population de la planète vivait dans une société urbaine. Donc cette question de la pédagogie, de l'éducation, elle est essentielle. J'ai été toujours surpris, mais enfin bon, chacun prêche pour sa chapelle, je suis toujours surpris de voir que dans la petite école, il n'y ait pas une meilleure initiation à la ville, tu citais le design, voilà, mais à la ville au sens général, quoi. Design urbain, ville, etc., un tout petit peu de culture. Encore plus surpris de voir que dans les écoles de ceux qui vont décider, ceux qui sont vraiment à l'origine des projets, c'est-à-dire les élus, et les gens qui sont, je dirais, aux commandes, d'une façon ou d'une autre, des outils financiers qui permettent de développer des projets, des bâtiments, et que dans ces grandes écoles, ou à l'ENA, etc., il n'y a pas cette culture du process de l'architecture et de la fabrication de la ville. Donc c'est un peu, alors les architectes, alors en France en tout cas, ont été un peu coupables parce que le système, ça c'est l'histoire française avec le système des beaux-arts, a fait que les architectes se sont quand même un peu mis par leur, je le disais, par leur langage, par leur attitude, un peu dans une tour d'ivoire et n'avaient pas, je faisais l'éloge des rapports entre architecture et société, c'est plus anglo-saxon, pourtant mon accent, vous voyez, je suis pas d'Europe du Nord, mais c'est plus des attitudes anglo-saxonnes au sens large, au Rome du Nord, que des attitudes méditerranéennes où l'architecture, Italie, France, Espagne, est un peu héritée de cette histoire prestigieuse, a été mise un peu sur un piédestal dans une tour d'ivoire. Donc c'est vrai que cette rupture avec la pédagogie et avec le grand public, elle est un peu locale. On le paie le prix fort parce que les éditions architecturales en France, et notamment la presse architecturale, se portent très mal. Alors qu'il y a encore des pays où il y a plus de vitalité dans le nombre de titres et dans les tirages de
presse. Est-ce que c'est pas la fin d'un cycle aussi? Parce que je me souviens, bon, j'en étais le premier acteur de ça, hein, à produire en 99 ou même avant, beaucoup de livres d'architectes et d'architecture et de réflexion, que ce soit des essais ou des... Et maintenant, on se rend compte effectivement qu'il y a moins que ça marche moins bien, qu'il y a moins d'éditeurs. Alors, est-ce que c'est lié à la crise ou pas? Je ne sais pas, mais... Tu crois que c'est lié vraiment à ce que tu dis?
Ah ben je pense que c'est la conjonction. Bon, ici, on est dans une magnifique librairie, donc je pense que c'est... on sait la question du livre, quoi. Non, mais je veux dire, c'est la crise... je pense que ça rencontre deux courants, c'est-à-dire, c'est effectivement l'intérêt, peut-être la pédagogie sur le thème de l'architecture, de la ville, mais peut-être aussi, d'ailleurs, des livres de photos, d'art, etc., qui sont pas faciles à réaliser, qui sont coûteux, bon, et qui ont chacun leur propre destin, mais aussi le fait que le livre, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est ce que vous disent les éditeurs aujourd'hui, et ben, le livre, c'est des tirages tellement confidentiels que ça crée une économie pour ce type de livre où il y a des photos, des impressions, etc., assez compliquée. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer, parce que si on est que... déjà que les gens visitent peu les bâtiments, à part les bâtiments de leur, comme tu dis, de leur ville, bon, mais les gens visitent peu les bâtiments. Si on est après que dans le virtuel et
le numérique,
et le numérique, je crois que sur ce que tu dis, sur la pédagogie de la ville et de l'architecture, on va perdre beaucoup, beaucoup d'impact et de pertinence.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné trop de livres aussi d'architectes ? C'est-à-dire tout le monde, un bâtiment sortait, en sortait un livre, un architecte commençait à avoir un peu de réalisation remarquable, un livre sortait. Alors est-ce que ça, c'est pas justement le rôle du numérique, de le relayer, et on va sur un site d'un architecte, où j'en parlais souvent avec, on en parle souvent encore d'ailleurs avec David Trottin, qui est un autre compère aussi, architecte avec qui on fait beaucoup de voyages et de livres à l'issue de ses voyages sur la ville et l'architecture. Et lui me disait, j'en suis pas sûr moi, mais... est-ce que le numérique n'est pas fait pour ça et que justement le papier doit rester pour... Alors lui, c'était pas les beaux livres. Moi, je crois que les beaux livres doivent rester. Hein, beaux livres de photos, d'art et d'architecture aussi. Mais le beau livre, qui coûte peut-être un peu cher, qui est en période de crise, on peut se poser la question de sa nécessité. Mais est-ce que aussi, ce ne sont pas des livres, bon, des livres d'écrit manifestes, mais plutôt des positions aussi, des attitudes, donc, d'où la pédagogie, comme on peut le faire avec usage pour, avec David Trottin une exploration des villes et qu'on restitue sous forme de dessin sur l'usage de l'espace public, comme on l'a fait ensemble sur la poésie des choses utiles, bon, qui était liée aussi à ta production, mais qui était aussi une position aussi manifeste, ouais. Comme ton premier livre aussi, La stratégie du disponible.
Qui était aussi, ah non, mais je crois que c'est ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a trop de livres, parce qu'on dit la même chose en littérature, pour les romans, pour tout. Bon. Est-ce que trop de livres, tu le livre de qualité ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait trop de livres pour que de temps en temps émerge la surprise d'un livre improbable qui finalement va être un très bon livre ? Bon. Ce qui est sûr, pour l'architecture, il est clair que je crois que ce qui est nécessaire, c'est qu'un livre a la responsabilité, comme tu le dis, de porter un angle de vue, une position, une réflexion. Ça, c'est clair que si c'est juste un livre d'images, qui est une sorte de portfolio, peut-être qu'il y a eu ça, effectivement, trop, ça, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu ça à une époque, mais si c'est, si le livre d'architecture est une collection d'images et de plans, c'est clair qu'à un moment donné, il n'y a pas vraiment de raison et d'intérêt à ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, là, on en revient au Star System, il faut aller au-delà du star system et il faut réintroduire une réflexion de pourquoi on construit, pourquoi des architectes vont construire ailleurs que chez eux. En fait, tout est question pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que l'architecture d'un lieu de travail ? Qu'est-ce que c'est qu'habiter aujourd'hui ? Les lieux, par exemple, il y a énormément de projets ces dernières années universitaires, de nouvelles universités en France. La réflexion, quand on voit les outils de pédagogie, d'apprentissage, de numérique justement, les façons de travailler, la culture des étudiants, la façon dont elle a changé, il n'y a mais quasiment aucune réflexion produite par le monde de l'architecture sur... ce que c'est qu'un lieu de connaissance et de fabrication de la connaissance aujourd'hui. C'est fascinant. Il y a une course frénétique à avoir la commande, à ça oui, et donc produire peut-être justement de l'information, mais qui est finalement de la communication pour avoir la commande, une course frénétique des commanditaires à, par exemple, l'École centrale de Paris va chercher Rem Koolhaas pour faire son bâtiment, nouveau bâtiment. Pourquoi ? Pour avoir une image, quoi. Donc on en revient à cette idée de l'icône, etc. Alors que ce qu'on attendrait au début du siècle, qui commence, c'est une véritable réflexion sur ce qu'est la nécessité et la forme que doivent prendre les espaces aujourd'hui. Nous, on avait entamé une réflexion à l'agence, puisque comme tu l'as dit, avec Concept Office, Hypergreen, tout ça, on aime bien réfléchir en amont, en dehors des concours, du rythme des concours et de la commande. On avait reçu à l'agence des universitaires, comme je travaille pour le Collège de France, un prof du Collège de France, etc., d'une réflexion comme ça autour d'un café à l'agence pendant une heure sur les lieux d'enseignement. De tout ce qu'ils disaient, mais rien ne correspond au programme actuel de l'amphi, de la petite salle, etc. À peu près tous les 100%, enfin on n'a pas reçu beaucoup de gens, mais les 5 ou 6 personnalités qui ont défilé à l'agence pendant 3 mois, par exemple l'amphi, ils disent que c'est une aberration. Faire un amphi aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Donc, toute cette réflexion n'est pas faite. Donc je crois que ce dont on a besoin vraiment aujourd'hui, c'est de produire, c'est vraiment de se poser un peu, de réfléchir, de produire. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est, disons qu'un architecte qui va essayer de s'abriter derrière cet effet Bilbao pour faire un immeuble de 20 logements sociaux, ou un immeuble de bureau, ou une université. C'est là où je critique, ce fonctionnement. Parce qu'effectivement, ça fait l'économie d'une réflexion pour se précipiter sur un effet de forme.
Exactement. Beaucoup d'architectes, on a l'impression, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, font un bâtiment en vue d'être publié. C'est pas radical ce que je dis, mais souvent, il y a ça. Ils pensent aussi à la possible publication dans les revues, dans les livres, etc. Ce qui est un peu ce que tu dis, ça rejoint ce que tu dis, un peu problématique. Moi, j'aimerais que tu nous parles de la ville, parce que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la ville. Là, on en parlera peut-être à la fin du Grand Paris. Mais tu parles d'urbanisme, et c'est assez intéressant ce que tu dis. Tu nous parles d'un urbanisme d'atmosphère.
Oui, parce que effectivement, c'est aussi ce qui a donné la naissance à ce premier essai, qui j'espère aura une suite, parce qu'on continue à réfléchir et puis on a des réactions sur ce premier texte qui nourrissent un peu cette réflexion sur effectivement cette façon qu'on a eu de faire la ville ces dernières décennies, qui est une façon vraiment en 2D. C'est-à-dire que les grands maîtres du mouvement moderne au début du XXe siècle ont eu des idées évidemment adapté, quand je disais quand j'évoquais ce triangle architecture, technique, société, c'est vrai que les grands maîtres, les Le Corbusier, les Mies van der Rohe, Rai, tout ça, ils étaient vraiment bien installés dans ce dispositif-là. Et ils en ont, tiré une façon de concevoir la ville qui a été adaptée à un moment donné pour résoudre toutes les questions que l'on sait, la question de l'extension des villes, des îlots insalubres, enfin cette architecture moderniste, mais finalement qui s'appliquait à des villes, je dirais, de l'ordre du million d'habitants, quoi. Ou de 3 millions d'habitants, ou de 4 millions d'habitants, et un mode de vie et des questions posées qui ne sont plus ce qu'on rencontre un siècle après. Sauf que c'est un dispositif qu'ils ont créé, un dispositif, comme je le dis, en deux dimensions. Le grand thème du mouvement moderne, c'est le fonctionnel, donc on pose les réseaux. Dès qu'on pose des réseaux, ça fait des cases, et dans ces cases, c'est très commode de mettre la case bureau, la case espace vert, la bien nommée, la case logement, etc., ce qu'on appelait le zoning. Mais il se trouve que ce système, à mon avis, perdure et s'est développé à des proportions qu'on ne pouvait pas imaginer, parce qu'il correspond parfaitement à une logique financière d'utilisation du foncier. Et que si vous faites un plan de financement, si vous êtes une grande banque chinoise et que vous faites le financement d'un quartier à Shanghai, ben cet allotissement, ce quadrillage, il correspond à un mode très simple de garantie des placements et d'efficacité des placements. Alors que ce que la ville qu'on aime, hybride, complexe, multicouche, avec de la profondeur d'usage, avec des usages qui s'empilent dans les étages, avec des bureaux au-dessus des logements, avec des jardins un peu répartis partout et pas un espace vert idiot qui sert à rien. Enfin, toute cette complexité-là, elle est déroutante en termes d'efficacité économique. Et donc, ce modèle aujourd'hui est devenu la caricature de lui-même. Quand on parle de villes comme en Chine, des Chongqing, des Wuhan, des Chengdu, des villes qu'on connaît à peine et qui ont 10, 15, 20 millions d'habitants, et où là on produit vraiment un monde urbain désespérant. Et en même temps, j'ai vu que ce que j'aimais dans ces visites de ville, c'était la façon dont pourtant, dans la ville asiatique, la rue se chargeait de couleurs, d'odeurs, de mouvements, de bruit, de musique, de vêtements qui flottent aux fenêtres, etc., alors qu'on est à l'ombre d'une grande tour en verre un peu internationale. Et donc la persistance d'atmosphère urbaine et la persistance aussi d'identité urbaine. C'est-à-dire que même Si il y a des Starbucks Coffee partout, il y a des McDo partout, dans tous les, même si les enseignes, que ça soit de luxe, que ça soit de moins de luxe, etc., se répandent partout, eh bien finalement, on se dit bah, tout va finir par se ressembler. Eh bien, quand vous êtes dans une rue de Shanghai, vous êtes carrément pas dans une rue de Paris. Et quand vous êtes dans une rue de Shanghai, vous êtes non plus finalement pas dans une rue de Hong Kong, ni dans une rue de Pékin. Donc, il y a quand même une persistance de l'identité des villes qui est très forte. Et donc, on a analysé ça avec mon associé Pauline Marchetti. On s'est dit, tiens, bon, comme on va souvent en Asie, on a pris des photos, on a regardé, on a écouté. Et on s'est rendu compte que c'était pas tant finalement la matière construite, parce que ces immeubles de verre, ils sont un peu uniformes. J'espère que ça va changer, ça aussi. Mais par contre, la façon dont la ville créait des atmosphères, la façon dont la ville était vécue, habitée, déplacée. Et c'est pour ça qu'on a recouru à cette idée d'atmosphère. Et pour valider et avoir quand même un cadre pour marquer ces atmosphères, on en est venu tout bêtement à cette idée des sens, les cinq sens, qu'en Asie, il y en a six d'ailleurs, puisqu'il y a l'équilibre mouvement qui s'ajoute, mais des sens, et de dire finalement, la ville fonctionnelle, c'est une ville très monocorde, quoi, très visuelle, très... voilà, les cités, voilà ce qu'on appelle ici les cités, voilà, c'est des géométries visuelles, et souvent les gens sont surpris en se disant, mais... Tiens, tel architecte me dit, ah, mais c'est pas si mal le plan de la cité des années 60, parce que c'est vrai, en termes de composition, ça peut être très élégamment fait, et en même temps, c'est désespérant d'y vivre. Pourquoi ? Parce que c'est monocorde en termes de sensations. Et toutes les autres sensations possibles que l'on trouve dans le foisonnement de la ville asiatique, eh bien, elles en sont absentes et elles ne sont pas rendues possibles. Et donc, j'ai mis en avant cette idée de ville sensuelle, qui est un peu un slogan, pour dire, voilà, aujourd'hui, la technologie, elle est suffisamment versatile, suffisamment flexible, pour qu'on puisse lui demander de s'effacer et de nous restituer des villes où on a des odeurs, des villes où on a de la nature, des villes où on peut s'approprier, on peut ouvrir la fenêtre, tout simplement, ce qui, il y a 10 ans, était quasiment devenu impossible dans tout immeuble contemporain, que ce soit un hôtel, un bâtiment de bureau, une université.
Ce qui le reste encore. Hein.
Tout est climatisé, on peut ouvrir les fenêtres. Si vous ouvrez la fenêtre, ben, quel bruit vais-je entendre dans la rue ? Quels sont, quelles odeurs ? Est-ce que je vais sentir le lilas au printemps ou pas ? Donc ça pose la question de l'arbre. Est-ce que je vais sentir la centrale à charbon ou pas ? Ça pose la question de la pollution. Donc voilà pourquoi on en est venu à cette idée de remettre... un sujet qui est un peu tabou, l'expérience de l'homme, le corps dans la ville, de le reprendre comme un critère et de ne pas le mettre au fin du processus en disant « je dessine mes grands quadrilatères et après le bonhomme se débrouille à l'intérieur ». Donc c'est un peu le sens de cette pensée sur la ville.
Ouais. Non, ça tu parles de l'usage et du temps avant l'espace, ça je trouve vraiment intéressant aussi pour un architecte. Parce qu'on dit toujours, l'architecture, c'est l'espace. Alors, est-ce que c'est le construit, est-ce que c'est le vide, etc. Et là, tu introduis cette dimension qui me semble vraiment importante. Et, sachant que maintenant, tu as créé Sensual City.
Studio, pardon.
Qui est un bureau de recherche pour lequel tu réponds, tu es responsable aussi d'une charte pour l'aménagement des gares du futur train de la Grande Ceinture dans le Grand Paris, avec toutes les stations, etc. Donc c'est une charte créer une charte d'ambiance architecturale, de design aussi, j'imagine d'introduction d'art et de vie, etc. Donc comment est-ce que tu crois que tu vas pouvoir transposer à l'échelle de Paris, et donc de ce Grand Paris, et de ce grand réseau qui va être le... Ce futur, je ne sais plus comment on l'appelle.
Le Grand Paris Express.
Le Grand Paris Express,
Grand
voilà.
Paris Express.
Avec ta nouvelle carte. Est-ce que tu vas travailler sur ces notions-là, j'imagine ? Et est-ce que tu penses que c'est possible dans une ville européenne comme Paris, qui est la ville musée par excellence, dans laquelle maintenant il y a plein de...
Oui, ça c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Quoi. C'est le sujet qui m'occupe en ce moment. C'est un sujet passionnant, puisqu'effectivement c'est 57 nouvelles gares. Donc on est en charge de produire les chartes qui vont définir... l'ère de famille de ces 57 nouvelles gares. Donc d'abord, ta question sur le temps, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on a confondu beaucoup les espaces vides avec l'espace public. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, au XVIIIe siècle, vous vous dessinez une place avec son cortège de monuments, la question de l'espace public se posait pas, quoi. La place, le vide, en plus dans des villes enserrées dans des enceintes, hein, généralement, dans des fortifications, tout vide crée aussitôt sa propre vocation d'espace public. Au XIXe siècle, ça change un peu, c'est-à-dire que le vide continue à être un espace public, mais on se rend compte maintenant, en fait, pour des raisons tout à fait différentes. C'est-à-dire que les grands boulevards, les places haussmanniennes, sont un espace public qui n'est plus un espace statique, mais qui commence à être l'espace du mouvement et de la ville en train de se regarder circuler. Et d'ailleurs, dans les tableaux impressionnistes, évidemment, on voit ça. C'est l'idée de la foule, etc. Si vous regardez un tableau du XVIIIe siècle, un espace public, les gens sont... Ils ne bougent pas, quoi. Ils discutent sur la place, ils s'installent. Et donc, il y a cette espèce de chant du cygne au XIXe siècle. Et ensuite, au XXe siècle, on crée des espaces vides. Mais s'il n'y a pas le temps pour l'utiliser et des occasions temporelles pour l'utiliser, ben ces espaces publics sont juste des vides. C'est le problème de Paris, où, comme tu le dis, on a un centre hyper muséifié, hyper muséal, où là, tout est espace public, là, il n'y a aucun problème, mais ça concerne 1,8 million d'habitants. Mais Paris, c'est 12 ou 14 millions d'habitants. Mais dès qu'on s'éloigne de ce Paris muséifié, on a effectivement des tissus urbains qui ont vraiment un très faible rapport avec l'espace public, parce qu'il n'y a pas de temps qui sont donnés. Parce que le temps... Dès qu'on s'éloigne de Paris, le temps devient très... s'amincit complètement. À Paris, ou dans le centre de Bordeaux, ou dans le centre de toute grande ville, vous avez beaucoup de feuilletages temporels qui vont plein d'activités qui se mélangent du soir au matin, voire toute la nuit. Et puis, dès que vous vous éloignez, que vous êtes dans la périphérie, eh bien, vous avez un temps qui devient de plus en plus mince, d'où cette appellation de cité dortoir, qui, à mon avis, n'est pas tant liée à la forme qu'avaient ces bâtiments, qui est liée à ce rythme métro, boulot, dodo, qui était complètement imposé aux habitants. Donc avec les gares du Grand Paris, pour moi, le premier enjeu est une réflexion sur le temps, parce qu'on va permettre, avec cette ligne qui passe autour de Paris, dans la périphérie, de faire fonctionner cette grande ville comme une ville archipel, et pas comme une ville uniquement centrée sur Paris, de redonner la possibilité de circuler à des gens qui sont très souvent bloqués dans leurs déplacements, et donc d'offrir d'autres temporalités. Donc on veut que les gares puissent supporter des commerces, des services, qui vont faire que ce n'est pas un espace public au sens traditionnel en disant on va faire une gare monumentale, mais un espace public d'aujourd'hui, un espace collectif, où même si ça dure 10 minutes, le temps où je vais me poser pour un café, acheter le journal, donner un rendez-vous, attendre un collègue qui prend le même train que moi ou un ami, etc., de dire que c'est vraiment un espace qui va avoir une temporalité assez riche. Donc c'est pour ça que le dispositif, ça avait été choisi par la Société du Grand Paris, c'est de dire que chaque gare est contextuelle, donc il y aura un architecte par gare, les 16 premières gares viennent d'être attribuées, et le travail que je fais est un travail que je n'ai pas voulu du coup être de l'ordre du franchising et de dire... toutes les gares vont être rouges ou bleues ou avec un toit pointu. Moi, je laisse mes amis architectes, au contraire, faire des gares qui vont être très contextuelles, très continues avec la ville dans laquelle elles s'insèrent, et tenter que l'identité de la gare, ça soit l'expérience du voyageur. Alors, c'est un vaste défi, parce qu'on en revient au sens, c'est... travail sur la lumière, sur la qualité de lumière, c'est un travail sur la qualité sonore, c'est un travail sur la bande-son de la gare, mais qui n'est pas une bande-son. Quand on a commencé à réfléchir il y a un an et demi, on a été lauréat de ce concours il y a un an et demi, en ce qui concerne le son, on a travaillé avec un acousticien pour prévoir des rythmes, tout ça, mais finalement on s'est dit on ne va pas rajouter, il n'y a pas besoin. Donc en fait là, on est dans une réflexion où on va simplement accorder tous les bruits préexistants dans la gare, le ding de la machine du ticket, le dong de l'ascenseur, le bip de ceci, des portes et tout. Il y a plein de sons dans une gare, mais au lieu de laisser ça à chaque fabricant, C'est juste de travailler justement avec des spécialistes de musique pour accorder. Ça existe un peu au Japon, hein, dans les, ouais. Là, le métro japonais, comme tu l'as remarqué.
Ouais. Japon, hein.
Ouais. Ouais. Il y a des sons agréables dans les stations de métro et on identifie les stations de métro avec ça. Donc on va travailler sur le son, on va travailler sur la texture des matériaux. Et donc par exemple, j'impose, pour vous donner une idée très concrète, j'impose aux architectes qui commencent à travailler là en ce moment sur ces 16 gares, sur la matérialité, sur le concept d'insistance. C'est de dire, voilà, ces gares, entre la ville et le quai, je ne veux pas que ça soit un catalogue de matériaux, mais vous choisissez un effet de matière ou de couleur ou de chaleur de matériaux. Ou et vous l'appliquez, avec des variations, hein, mais vous l'appliquez vraiment dans toute la gare. Parce que la gare, justement, au contraire d'un musée, on en revient toujours à cette idée de geste formel ou pas, la gare, c'est un espace qui s'impose aux gens tous les jours dans le quotidien. Donc, si vous faites un bâtiment qui est très spectaculaire, ok, les trois premiers jours, il va y avoir un effet « waouh ». Le mois suivant, il va y avoir un effet « bon, ça y est, j'ai compris ouais. ». Et puis, les dix années où tous les jours, vous allez prendre le train, vous allez dire « mais pourquoi on m'impose ce truc ?». Donc, j'ai envie qu'il y ait à la fois une présence, que cette atmosphère architecturale, elle soit présente, mais elle ait une certaine sérénité. Donc, dans la matérialité, tu vois, c'est l'insistance. Ouais. Donc, on va travailler… Et les odeurs, juste pour finir là-dessus, sur les odeurs, qui est un sujet tabou. Là, on prononce les odeurs à la Société Grand Paris, qui est une émanation un peu de la RATP, il faut dire, il ne faut pas en parler, c'est le sujet tabou, pour des tas de raisons qu'on connaît, ça c'est des raisons sociologiques, de fait que quand les gens sont ensemble comme ça, il y a une odeur humaine, quoi, et qui est tabou, sauf que quand ils font des enquêtes à la RATP, c'est parmi les deux sujets qui viennent en premier, de dire on aimerait que le métro... Ça, voilà. Donc on va travailler avec les ingénieurs de ventilation, sur l'idée que c'est pas juste, parce que toutes ces gares sont souterraines, en fait. Hein. Les gares du Grand Paris vont être souterraines. Donc ce n'est pas juste un air hygiénique, parce que l'air du RER à Paris, l'air tout ça, il est hygiénique, il est bon, il n'est pas... Mais il sent l'odeur d'hydrogène sulfuré, parce qu'il traverse des roches humides, etc. Les gares SNCF ont une odeur particulière qui est due aux produits d'entretien, etc. Donc on va travailler, un peu comme sur le goût d'une eau minérale, de dire qu'il faut que l'eau minérale, elle est à la fois potable, mais en même temps, elle a un goût potable. Quoi. Elle est, ouais. Elle, bon. Et donc sur l'air, on veut que quand on sorte du train à moins 20 mètres, à moins 30 mètres, il y aura même une gare à moins 50 mètres, on ait l'impression qu'on soit à l'air libre. Et ça, c'est un défi pour la technique. Donc, ce n'est pas de dire on va parfumer l'air, mais c'est comme une eau minérale, donner l'impression que cet air, il est... voilà. Donc, c'est un peu ça le travail à suivre, parce qu'on est en cours. Voilà.
Juste pour finir avec ça, moi, un point essentiel, tu l'as dit, hein, mais est-ce que vous allez pouvoir le faire pour le Grand Paris, pour les gares? Il me semble que moi, dans des transports comme ça, qui risquent d'être sur de longs trajets, au quotidien, tu disais boulot, métro, dodo, effectivement, ça existe encore. Est-ce que tu vas pouvoir insuffler à l'intérieur et y mettre, aller assez loin pour y mettre ce qui se passe en Asie, pour revenir encore à l'Asie, mais un dentiste, une administration, j'ai besoin de faire une fiche d'état civil sans devoir sortir si j'habite à Trifouille-les-Oies et que je bosse là et que j'ai pas le temps, que j'ai des gamins, etc. Là, j'ai un temps de connexion à un moment donné. Si je dois aller faire une fiche d'état civil, des papiers, aller chez le dentiste, amener le petit chez le docteur, est-ce qu'il y aura ça? On peut imaginer ça dans des gares, stations, RER, pluguées sur la ville ou pas, en haut, en bas, j'en sais rien, mais que ce temps-là du trajet soit aussi un temps de vie autre que simplement un déplacement?
Alors ça, c'est ce qu'on souhaite, parce que ces gares, pour ces territoires urbains, seront souvent le seul espace public finalement traversé dans la journée. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est là où, par rapport à l'Asie, j'aime bien parler de regard réciproque. C'est-à-dire qu'on a quand même eu souvent l'impression qu'on était là pour amener des solutions dans... c'est ce qui m'énerve quand on parle d'architectes qui travaillent en Chine ou en Afrique ou ailleurs... ou en Asie en général, c'est on a l'impression qu'on est là pour dire comment il faut faire, on est en train d'exporter des idées. Moi, en Asie, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé depuis 10 ans, où je vais là-bas, c'est ce que j'ai résumé sous l'idée du regard réciproque. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'est que moi, j'ai, au départ, parce qu'on a très peu construit finalement, enfin non, l'agence, on a très peu construit en Asie, mais par contre, ça m'a profondément influencé ça a profondément influé la production de l'agence et ma réflexion. C'est ce que je dis d'ailleurs dans cet essai. Et ça, c'est hyper important. Et je crois qu'on n'aurait pas été lauréat, nous n'aurions pas été lauréat des gares du Grand Paris. On était contre forte partie. Il y avait 7 grandes agences d'architecture, donc au moins une ou deux avaient beaucoup plus d'expérience que nous. Nous n'en avions aucune en termes d'architecture des gares et de transport. Si on n'avait pas eu en arrière-plan cette réflexion sur la ville asiatique et des idées notamment sur l'idée d'hybride, sur l'idée donc des sens, puisque le slogan, ça a été la gare sensuelle, que j'avais vraiment pris en Asie. Et ce regard réciproque, en fait, il date de Marco Polo, c'est-à-dire que, en fait, le dialogue Occident-Orient, il a toujours été là, en philosophie, en littérature, enfin, il faut voir le XVIIIe siècle en France, mais beaucoup aussi en art, et en architecture, le japonisme, la fascination des architectes du XXe siècle pour la maison japonaise, etc. Donc en fait, c'est rien de nouveau que juste retisser les liens d'une histoire entre ces deux civilisations qui ont vraiment des points de vue sur l'espace très différents, mais ces liens ont toujours existé. Et là, on est parfois un peu découragé parce que les idées que tu évoques, Franck, ces idées-là, qui à mon avis sont vraiment la clé de la réussite de ce projet, je crois qu'en Asie, ça ne serait même pas une question.
Non, c'est naturel.
C'est quelque chose qui effectivement est naturel et que ces croisements, ces transversalités, ces services urbains, ces commerces qui entrent et qui sortent de la gare, c'est la culture, l'art. Moi, j'ai pu voir des inaugurations, des vernissages d'expos d'artistes chinois qui se vendent des centaines de milliers d'euros, mais dans les stations de métro à Shanghai, etc. Bon, alors qu'ici, mais particulièrement ici, en France, où on a la culture de la division des responsabilités et des administrations, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Donc nous, on pousse, nous ne sommes que la charte d'architecture et de design là-dedans, mais en tout cas, on va pousser, nous, et j'espère les architectes qui sont actuellement en train de travailler sur les gares, pour au moins rendre possible cette évolution. Les premières gares dont on parle, sur lesquelles on est en train de travailler, seront livrées en 2020. Donc on se dit, il faut que les projets, et de plus en plus d'architectes, et en tout cas beaucoup de ceux qui sont sélectionnés pour ces gares, partagent ces idées, il faut que les projets rendent possible cette évolution. Et qu'on n'est pas uniquement le pauvre vendeur de sandwich agréé RATP, le pauvre kiosque à journaux et basta. Il faut que l'on fasse des croisements avec les, comme tu le dis, les services urbains, les services municipaux, les services de la ville beaucoup plus riches. Il faut par exemple à Clichy-Montfermeil, où il va y avoir une nouvelle gare dès la deuxième phase, il y a un marché très coloré, très une sorte de souk comme ça, 3 ou 4 fois par semaine, mais très vivace. La gare est juste là. Et encore à côté, il y a le projet de Villa Médicis, je sais plus comment elle s'appelle, enfin en tout cas, se touche. Villa Médicis, en tout cas en banlieue, tout ça c'est dans un rayon de 50 mètres. Il faut absolument que la gare, ça soit pas un troisième élément, mais ça soit au contraire l'élément de liaison entre l'équipement culturel, le marché. Le marché très cosmopolite, très vivant, qui est un des bons moments de cette ville, et le transport. Donc on pousse pour, je crois que c'est vraiment un combat très très difficile à mener, où il va falloir beaucoup de persévérance, et on en revient à la pédagogie, et entraîner la motivation. Il n'y a que le politique. Ouais. Il n'y a que les maires, j'espère que les maires des communes dans lesquelles on s'installe vont aider la Société du Grand Paris et nous à faire que ces gares soient effectivement des gares d'un type nouveau, en tout cas par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici.
Après, juste une dernière question, c'est pour finir, la possibilité d'une ville, donc le livre, c'est un manifeste humaniste ?
Oui, voilà, c'est un manifeste humaniste. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée de considérer le projet urbain en remettant le corps au centre et en mettant l'homme au centre des préoccupations. Je discutais à l'époque, il y a 3 ans, à l'époque du Pavillon France, on avait fait, enfin le client du Pavillon France avait fait un film interactif avec une grande compagnie française, pour ne pas la nommer, ce qu'ils font, le logiciel Katia, qui a permis justement à Franck Guéry de dessiner Bilbao. Et je leur disais, mais voilà, moi j'aimerais faire des plans urbains aujourd'hui, qui ne sont pas des plans en 2D, tout simple, mais des plans qui intègrent la variation du niveau de l'eau, la pluie, les bruits, l'arbre qu'on va conserver, le petit mur, etc. Comme ces plans que l'on voit au XVIIIe siècle, qui sont jusqu'au XVIIIe siècle, qui sont dessinés avec une espèce de fausse perspective, où on voit les murs, le petit pommier par-dessus le mur, ce qui fait qu'on peut mentalement reconstituer les bruits, les odeurs. Je dis, voilà, il faudrait faire ça, mais avec toute la complexité de la ville actuelle pour un nouveau quartier. Et moi, les ingénieurs de ce groupe, là, Katia, m'ont dit, mais nous, on vous fait ça demain, quoi. Rien n'est plus facile. C'est-à-dire que c'est des paramètres qui sont largement aujourd'hui maîtrisés par ces outils. Ce qui veut dire que cette pensée humaniste n'est pas évidemment une pensée nostalgique, n'est pas une pensée de dire on va redessiner des plans à la plume, des plans de ville ou faire des petits plans reliefs comme on a pu voir, magnifiques, mais c'est de dire justement, ne dessinons pas avec des moyens maintenant devenus archaïques, des logiciels 2D qui font du plan-plan comme ça, alors qu'on a des outils de représentation qui pourraient à nouveau re-enrichir la conception urbaine avec plein de couches et des couches qui pourraient donner cette dimension sensible qu'on a envie de revoir dans les villes, parce que sinon, une fois encore, nous, je dirais qu'on est tellement privilégiés que nous pouvons nous en sortir, puisqu'il y a encore la question, dans toutes les grandes villes françaises, la question quand même périphérie-centre se pose. Mais effectivement, dans les pays où il y a une très forte croissance urbaine, si on ne vient pas à cet urbanisme sensible, à cet urbanisme d'atmosphère, je crois qu'on va dans le mur réellement, je dirais, social et politique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire vivre des millions de gens dans des quartiers sans âme pendant des années sans qu'il y ait un rejet de ce modèle. Et comme ce modèle est profondément lié à l'organisation de la société, il faut vraiment réagir tout de suite pour préserver effectivement pour préserver cette qualité de vie urbaine qui amène la connaissance, la culture, le bien-être et le confort, mais qui ne doit pas être au détriment d'une vie sensible des habitants. Quoi. Voilà.
Ouais. Ce qui rejoint ce qu'on disait sur l'éduquer aussi. C'est-à-dire que beaucoup de politiques ne savent pas lire un plan d'urbanisme. Et ils vont lire un geste taillé au cutter et pas du tout effectivement ce dont il est question, c'est-à-dire de la société des gens qui vivent là et qui vont vivre.
Il faut qu'ils continuent à lire des livres, et notamment celui-là.
Et notamment celui-là, voilà. J'ai pris beaucoup plaisir à lire.
Ben merci et bonsoir.
Merci Jacques.